France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France est consacrée ce soir à la place de la voiture dans les zones périurbaines, quand on habite loin des centres-villes et que la voiture individuelle devient indispensable, avec parfois même deux véhicules pour un couple, quand chacun travaille de son côté un peu loin du foyer. Le périurbain est-il condamné à faire la part belle à la voiture ? On rappellera qu'il y a un peu plus de deux ans, Emmanuel Macron avait l'intention de développer un réseau de RER un peu partout, en tout cas dans une dizaine de villes en France. Eh bien, on va se demander ce soir quelles alternatives sont possibles à la voiture entre les trains RER, métro et tramway. Malgré ce maillage existant, comment faire pour combler ce qu'on appelle parfois le dernier kilomètre, celui qui mène à la maison, surtout quand ce dernier tronçon fait plusieurs kilomètres. Alors, quelle mobilité souhaitons-nous ? Moins carbonée, bonsoir Yael Gauz.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Alors que les députés viennent de mettre un coup d'arrêt aux ZFE, les zones à faible émission de pollution.
Est-il encore possible de sauver ces trois lettres-là ? ZFE, zone à faible émission ou à forte exclusion ? Les députés trancheront la semaine prochaine. La bagnole qu'on adore, comme aurait dit le président, enjeu du backlash écologique.
À tout à l'heure Yael, qui est concerné par la précarité de mobilité. Et quelle place donc pour la voiture ? C'est le thème ce soir. Voici une semaine en France. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Éric Delvaux, le 18-20.
Et avant d'écouter notre premier témoin, je vous mets en tête la dernière étude WeMove qui pointe une augmentation de la précarité face au transport en Île-de-France. Ça veut donc dire qu'on peut avoir un réseau de mobilité fourni avec métro, RER et tramway, mais rester à quai parfois sans solution pour se déplacer quand on veut parcourir donc ce dernier kilomètre. Bonsoir Laura Bertin.
Bonsoir.
Vous avez 33 ans, vous êtes aide ménagère à domicile à Ferté-sous-Jouarre et aux alentours, c'est en Seine-et-Marne. Je précise que vous n'avez pas le permis et vous n'utilisez donc que les transports en commun et la marche à pied. Expliquez-nous comment vous faites chaque jour pour aller travailler un peu loin.
Alors, pour ma part, oui, exactement, c'est un peu difficile pour moi pour prendre les transports quand on n'est pas véhiculé. Donc, je suis obligée de prendre soit les bus ou soit le RER. Donc, après, avec mon travail, c'est un peu compliqué par rapport aux interventions et les horaires.
Est-ce que ce temps de déplacement, par exemple, empiète sur vos heures de travail et donc votre salaire, je rappelle que vous êtes aide ménagère à domicile itinérante?
Oui, exactement. Ça peut avoir des répercussions, surtout sur le salaire, sur le nombre d'heures et sur le travail.
Les stations d'arrêt des transports publics, ils sont loin de vos lieux de travail ?
Alors, pour ma part, je dirais que sur le temps de parcours, ça peut, je pourrais en avoir pour 1 heure à 2 heures.
Et donc, c'est de la marche à pied, après le métro, après le RER ou le bus, c'est la marche à pied, pendant longtemps ?
Et exactement, c'est un peu compliqué pour ma part. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Ouais, et envisager les déplacements de roues, est-ce que ce serait une solution ?
Oui, bien sûr, ça serait une bonne alternative.
Mais avoir un vélo, ça coûte cher. Pourquoi pas de vélo ? Pourquoi pas de scooter, par exemple ?
On va dire que c'est plus économique et pour la pollution, pour se déplacer.
Mmh. Et passer le permis.
D'avoir oui, effectivement, le permis de conduire, ça aide. Mais en attendant d'avoir le permis de conduire, je trouve qu'on peut se déplacer en vélo électrique.
Et c'est ce que vous cherchez ? Vous cherchez un vélo électrique ? Vous avez peut-être des difficultés ? Ça coûte cher, un vélo électrique ?
C'est pas donné exactement, mais avec WeMove, j'ai trouvé une alternative en attendant de passer le permis.
Alors WeMove, on va expliquer. WeMove, c'est une organisation déployée sur tout le territoire pour réduire la précarité de mobilité. Comment avez-vous été en contact avec cette organisation WeMove, d'ailleurs ?
Avec le France Travail.
France Travail vous a donc proposé une solution alternative à vos déplacements. Quelles sont les aides, les structures autour de vous qui peuvent vous soutenir ?
Le France Travail, après il y a WeMove que je ne connaissais pas, il y a Je connais pas trop après certaines
enfin, il y a des aides en tout cas qui sont autour de vous. Vous n'êtes pas seul face à ce désarroi. Dernière question, est-ce que c'est plus compliqué d'aller travailler le week-end par rapport à la semaine?
Oui, effectivement, il y a moins de transports en commun.
Eh bien, merci de ce témoignage. Merci beaucoup, Laura Bertin.
C'est moi qui vous remercie.
Votre situation, donc, qui illustre assez bien les difficultés de déplacement, y compris quand il existe un réseau de transport public à proximité. Bonsoir, Flavien Nevy.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, spécialiste du monde automobile, responsable de l'Observatoire CTLM, et vous êtes aussi maire de Sébaza, hein, dans le Puy-de-Dôme. Alors, contrairement aux grandes villes, hein, où l'on veut de moins en moins de voitures pour des raisons environnementales, dans les zones urbaines, en revanche, en périphérie donc, on vient de l'entendre, la voiture reste toujours une solution, hein, et certainement pas un problème.
Oui, alors il faut bien comprendre qu'en fait, en matière de mobilité, on a une vraie fracture territoriale. En fait, on a deux France qui parfois d'ailleurs ne se comprennent pas quand on parle de voitures. Il y a d'un côté effectivement la France des grandes métropoles où là il y a vraiment de multiples façons de se déplacer, beaucoup de transports en commun, vraiment beaucoup de choses alternatives à la voiture. Et puis c'est vrai que dans la France périurbaine et rurale, la voiture est très souvent le moyen le plus efficace, voire le seul moyen pour aller travailler, emmener les enfants à l'école ou faire ses courses. Et la place de la voiture, elle est strictement incontournable. Et ça crée donc des fractures territoriales parce qu'évidemment, derrière une voiture, quelquefois deux voitures, comme vous le disiez tout à l'heure, la multimotorisation, elle est très très forte en France. Et ben, c'est des coûts qui sont très importants.
Je l'ai dit, hein, vous êtes maire de Sébaza, 9000 habitants dans le Puy-de-Dôme. Comment font vos administrés pour aller travailler à Clermont-Ferrand? C'est la grande ville voisine. La voiture individuelle, elle reste souvent la seule solution là encore?
Non, parce qu'en fait, comme on fait partie de la métropole de Clermont-Ferrand, il y a un réseau de transport en commun qui est quand même présent, qui est efficace. On voit aussi fortement monter la mobilité active, hein, en particulier les vélos. On voit que dans une métropole, quand les infrastructures cyclables se développent, on a de plus en plus de gens qui utilisent les vélos. Et puis nous, Sébaza, on touche vraiment Clermont-Ferrand. Donc on fait partie de la même, j'ai envie de dire, unité urbaine. Donc on n'a pas les mêmes problématiques que certaines personnes peuvent rencontrer dans le milieu rural, où là, pour le coup, il y a absolument pas de transport en commun. Nous, on a des transports en commun, on a des lignes de bus, donc on peut se déplacer différemment, même si la voiture, elle est quand même très présente, puisqu'on a un taux de motorisation, c'est-à-dire un taux d'équipement des ménages en voiture qui est très élevé.
Et pour cette catégorie de population qui va donc travailler en voiture, est-ce qu'on sait en moyenne combien une famille dépense pour son automobile ?
Oui, en moyenne, chaque année, alors évidemment, ça va dépendre à la fois de la motorisation évidemment. De la voiture, de son ancienneté, parce que les coûts d'entretien ne sont pas les mêmes, mais en moyenne, c'est entre 3 et 4 000 euros par an et par voiture. Le carburant représente à peu près la moitié de ces dépenses-là. Et c'est un budget qui est très lourd, parce que si vous dépensez, allez, on va dire 3 500 euros par an par voiture, que vous en avez deux, ça fait 7 000 euros. Et en France, en moyenne, on dépense à peu près 14 à 15% de son budget pour se déplacer. Et ça n'est qu'une moyenne. Et évidemment, les personnes qui habitent dans les zones rurales utilisent beaucoup plus leur voiture. Il y a une intensité d'utilisation de la voiture qui est beaucoup plus forte, donc des coûts qui sont beaucoup plus élevés. Il faut dire aussi que dans les milieux urbains, il ne faut pas l'oublier, les ménages qui ont les revenus modestes, pour des raisons de coûts de l'immobilier, ont été amenés à sortir un peu des zones, des centres-villes, des cœurs métropolitains pour essayer de trouver des logements. Et donc, cette périurbanisation, si je puis dire, a entraîné aussi des surcoûts en matière de mobilité pour ces ménages qui, du coup, utilisent leur voiture et ça pèse lourd dans le budget des ménages.
Oui, évidemment. La jeune génération qui s'autoproclame parfois plus écologiste que les anciennes, comment appréhendez-vous l'idée que cette jeune génération voudrait un monde sans voiture ?
C'est pas tout à fait ce qu'elle nous dit quand on l'interroge, hein, dans les terrains d'enquête qu'on peut réaliser. On voit que les moins de 30 ans ne rejettent pas a priori l'idée de la voiture. En fait, ce qui va faire qu'ils utilisent ou pas une voiture, c'est leur lieu de travail, leur lieu d'habitation ou leur lieu d'études. Très clairement, dans les grandes métropoles, on voit que l'âge, par exemple, de passage du permis de conduire est en train de se décaler petit à petit, parce que si vous habitez à Lyon, Paris ou Marseille et que vous avez 20 ans ou 25 ans, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une voiture, donc vous passez votre permis un peu plus tard. En revanche, si vous habitez dans une petite ville ou une ville moyenne, là, l'âge de passage du permis de conduire ne bouge pas. Donc, plus qu'une question générationnelle, c'est plus une question effectivement de lieu d'habitation qui va déterminer ou pas si vous avez une voiture et si vous l'utilisez au quotidien.
39 millions de voitures, c'est le chiffre que j'ai retrouvé, vous allez peut-être le préciser. 39 millions de voitures qui roulent chaque jour sur les routes de France. Est-ce que ce parc est à la hausse ou plutôt à la baisse ?
Alors, il augmente, mais très légèrement. En revanche, il y a un sujet, vraiment, je pense, un sujet à la fois environnemental, mais aussi en matière de sécurité routière, c'est que le parc roulant est de plus en plus âgé. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, gardent leur voiture de plus en plus longtemps.
Des voitures thermiques, souvent.
Parce que le prix de vente des voitures neuves. Pardon ?
Des voitures thermiques, souvent.
Oui, très souvent, hein, très diesel d'ailleurs. Et en moyenne, le parc a pratiquement 11 ans et demi de moyenne d'âge. Et en fait, aujourd'hui, les ménages français gardent leur voiture de plus en plus longtemps parce que les voitures neuves coûtent incroyablement cher. Les prix de vente des voitures neuves sur ces 20 dernières années ont augmenté plus de 2 fois plus vite que l'inflation. Donc, il y a beaucoup de ménages qui n'ont absolument pas les moyens d'acheter un véhicule neuf, ni même un véhicule récent d'ailleurs. Et donc, ils se tournent vers le marché de l'occasion. Et c'est le marché de l'occasion âgé qui est le plus dynamique, et donc ça pose des questions en matière de notamment d'environnement, puisque plus une voiture est âgée, plus elle est polluante, et plus elle coûte cher aussi en entretien.
Et puis il y a les objectifs européens, notamment dans 10 ans, en 2035, 100% des véhicules devront être entièrement électriques. Or, compte tenu du coût encore onéreux de ces véhicules électriques, là, le marché stagne. Est-ce que l'objectif de 2035 est encore tenable ?
C'est une règle, c'est une loi, c'est une décision européenne. Donc si elle ne change pas, oui, elle sera applicable et les constructeurs automobiles ne vendront que des voitures 100% électriques. La vraie question, au fond, c'est de savoir si derrière, les ménages auront les moyens d'acheter ces voitures électriques. Pour
l'instant,
on voit bien que ce n'est pas le cas.
Les constructeurs nous promettent de rentabiliser les véhicules électriques avec l'achat à grands frais de ces voitures, mais est-ce que c'est encore vrai de rentabiliser un véhicule électrique avec l'augmentation du coût de l'électricité ?
Eh bien écoutez, c'était un peu la promesse initiale qui était de dire votre voiture électrique va vous coûter plus cher à l'achat, mais rassurez-vous, finalement à l'usage, elle va vous coûter beaucoup moins cher. Alors c'est encore le cas si vous rechargez votre voiture à domicile, mais alors moins maintenant si vous rechargez dans l'espace public, sur les autoroutes, sur les aires d'autoroute. Mais pour autant, ça a jeté l'ombre d'un doute, si vous voulez. Les gens qui envisageaient d'acheter une voiture électrique se sont posé la question de savoir si c'était vraiment une bonne idée, compte tenu de la hausse des prix d'électricité qui a freiné certaines ardeurs. Et donc on a vu beaucoup d'attentisme de ce point de vue-là, et c'est ce qui explique pourquoi en 2024, finalement, les ventes de voitures électriques n'ont pas progressé comme attendu. Il y a des automobilistes aujourd'hui qui hésitent vraiment avant de passer au 100% électrique et qui se disent qu'il est urgent d'attendre.
Et est-ce que l'invasion des voitures électriques chinoises que l'on nous prédit de longue date en Europe, est-ce que ça devient réalité, notamment en France ?
Bon, progressivement, les constructeurs chinois vont vendre de plus en plus de voitures, mais pour l'instant, c'est assez marginal quand on regarde le volume total de vente, c'est quelques milliers de voitures chaque année, quelques dizaines de milliers de voitures. Ça va monter en puissance parce qu'ils ont des constructeurs qui ont mis 20 ans finalement à devenir de vrais grands constructeurs mondiaux parce qu'ils se sont occupés de leur marché intérieur. Hein. Juste ce chiffre qui est assez impressionnant. Au début des années 2000, le marché intérieur chinois, c'était 500 000 voitures neuves par an et c'est devenu le premier marché automobile avec 25 millions de voitures chaque année neuves. Donc pendant ces 20 dernières années, ils ont profité de la croissance du marché intérieur, de leur marché intérieur pour progresser, pour faire des bonnes voitures, et ils ont des capacités de production colossales. Ils peuvent produire beaucoup, beaucoup de voitures avec des coûts plus faibles. Donc, ils ont besoin de trouver des relais de croissance parce qu'aujourd'hui, le marché intérieur chinois n'offre plus les mêmes perspectives de croissance. Et pour eux, évidemment, l'Europe, c'est un peu la cible idéale parce que d'abord, il n'y a pas cette guerre commerciale qu'ils peuvent avoir avec les États-Unis. C'est forcément beaucoup plus compliqué d'aller sur le marché nord-américain. Et puis surtout, l'Europe a fait le choix du 100% électrique. Oui. Donc, comme ils ont beaucoup d'avance en la matière, ils se disent que c'est là qu'il faut aller chercher des parts de marché.
Merci beaucoup d'être venu éclairer nos lanternes. Flavien Neuvy, économiste, spécialiste du monde automobile, responsable de l'observatoire CTLM et maire de Sébaza dans le Puy-de-Dôme. Merci et bonne soirée. Quelle mobilité pour ceux qui habitent loin des centres-villes, on va continuer d'en parler. À la technique ce soir, Ronan Mahé, Paola Collin et Fabrice Desmaz. Voilà un Américain qui est installé à Liverpool depuis près de 12 ans, Jalon Ngonga, avec son dernier titre « Just as long as we are together », disque sorti de la collection Soul de Djoubaka. Grand merci.
France Inter, le 18-20.
Quel rapport les Français entretiennent-ils avec leur voiture ? C'est le thème ce soir d'une semaine en France. On a même poussé le bouchon, si j'ose dire, en allant rencontrer des passionnés qui customisent leur voiture, leur véhicule. Ils participent régulièrement à des rassemblements. Eux, ils appellent ça des rassos. Ça existe un peu partout, chaque week-end en France, comme ici, sur le circuit automobile d'Abbeville. Ça sent le goudron et le pneu brûlé. Reportage sur la route de Guy Vanctil.
Alors nous sommes sur le circuit d'Abbeville. Donc je m'appelle Maxime, je suis organisateur d'événements automobiles depuis 8 ans. Donc pour les personnes qui sont passionnées de voitures, ils peuvent rouler sur piste ou exposer tout simplement leur voiture sur les paddocks.
Et alors il y a pas mal de monde aujourd'hui.
Quelques centaines de voitures je pense déjà, 300-400 voitures facilement. Il y a vraiment tout type de voitures. On peut constater un Clio RS, il y a la Porsche, Dodge, Mustang, toutes les marques qui sont représentées.
Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles, des automobiles partout.
Et là, on entend rongir, ça fait partie du plaisir aussi, quoi, le bruit. Quoi.
Ah, le bruit, bah oui, c'est ça. Bah, le bruit, l'essence, comment dire, l'odeur.
Que des trucs qui deviennent interdits de jour.
Effectivement, ça devient compliqué, ouais. Maintenant, il y a aussi les contraintes sonores par rapport aux décibels. Ils souhaitent installer des radars pour les nuisances sonores. Tout est fait pour contre les passionnés de voitures, quoi. Comment dire, l'essence, le diesel, c'est mal vu. Maintenant, c'est forcément porté sur l'électrique ou l'hybride.
Donc, c'est interdit ici, les électriques.
Ouais, justement, ouais. Sur mes événements, j'ai dit que c'était interdit.
Ça part si vraiment... j'arrive avec ma super Tesla Cybertruck, là, vous me refoulez
Ici, oui. Oui.
Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles, des automobiles partout, partout, partout.
C'est quoi votre prénom ?
Alexis.
Alexis, et là vous êtes sur votre voiture et je vois le capot ouvert.
Il y a le ventilo qui s'est décroché.
C'est quoi comme voiture ?
Une 206 S16.
Mais heureusement vous êtes des bons mécaniciens, c'est ça ?
On va se débrouiller.
Et vous faites quoi dans la vie ?
Je travaille dans les pièces de voiture.
Et vous, monsieur ?
Pareil, Geoffrey.
Geoffrey. Et là, vous êtes en famille, c'est la sortie du dimanche, c'est ça ?
C'est ça.
Bah ouais, puis les enfants, ils aiment bien, quoi. Bah bon, quand c'est des vieilles voitures, ça va, quoi. Je préfère les vieilles voitures que les récentes, quoi.
Ah oui, pourquoi ?
Bah déjà, la mécanique, on peut encore la faire nous-mêmes, quoi. Les voitures récentes, c'est un touch-up, quoi. On peut rien faire, quoi. Tout au garage, quoi. Ouais. Et nous, le garage, non, c'est nous-mêmes.
On met les vis. Voilà. Quelques petits coups. Et derrière, on entend ceux qui font... Oh là ! Rugir le moteur.
Ouais, on aime bien. Faut que ça fasse du bruit.
Et est-ce que vous avez une voiture hybride ou électrique ?
Non.
Pourquoi faire ?
Bah pour la planète, pour les gaz à effet de serre.
Non, non, non. Ça fait pas de bruit.
C'est à qui la belle Merco ?
À moi.
Bon, allez, bah, présentez-vous et parlez-moi de votre bijou. Votre joujou. C'est joujou ou bijou, comme on dit ?
Bah... C'est mon petit trésor, voilà, mon petit plaisir, et ouais, bah, elle m'appelle Alexandre, 36 ans, et la passion c'est la voiture, comme on voit ici, une voiture que j'ai toujours rêvé d'avoir, une Mercedes, mais là, sincèrement...
Vous avez cassé la tirelire là pour vous l'offrir ?
Bon, on va dire j'ai fait un crédit, le tout dernier gros plaisir que je me suis fait avant de prendre une maison, ouais. Mais là, la voiture elle est payée, donc maintenant c'est le plaisir, entre passionnés et avec les amis.
Si vous faites quoi dans la vie ?
Chauffeur routier international. Ah ouais, du lundi au vendredi, je suis sur la route et c'est une voiture que je me sers que pour le samedi et dimanche. Pour se promener et l'exposer comme ça, simplement. C'est une Mercedes CLA 200, essence.
Elle n'est pas hybride la vôtre ?
Ah non, ça. Il n'y a pas de hybride ni d'électrique, c'est hors de question. Je resterai toujours sur le thermique. Je préfère garder ma voiture toute ma vie, cette Mercedes, que d'échanger contre une électrique. C'est impossible. Je suis vraiment fier des voitures allemandes et ça a toujours été le top du top.
C'est rigolo, là, il y a une vieille pompe à essence BP. Mais vraiment de sortie d'un film des années 70, là.
Alors là, aujourd'hui, c'est un rassemblement donc, qui mélange les passionnés de toutes sortes de véhicules. Hein. C'est, faut parfois fouiner, puis savoir rendre un rein parfois pour pouvoir s'offrir un petit peu ce qu'il faut comme pièce manquante.
Et montrez-moi le vôtre, alors.
Je l'ai posé ici. Ouais. Ah. C'est une Peugeot 205 GTI. Je suis passionné de véhicules anciens. Et
elle a quel âge, celle-là?
Alors, celle-ci est de 87, donc elle a 39 ans, 38 ans. Ça a été ma première voiture, et du coup, je l'ai toujours gardée. Puis j'en ai racheté d'autres après. Puis tout l'argent y passe, entre guillemets, mais ça me permet de venir ici et vraiment de penser à toute autre chose avec tous les soucis qu'on peut avoir dans la vie personnelle. Là, ici, ouais. C'est d'entendre le bruit des moteurs et de parler passion. Et puis, bah, parfois, j'ai pas honte de le dire aujourd'hui, cette passion m'a sauvé, quoi. Des fois, dans des moments de tristesse profonde, bah, de se rassembler, de discuter avec des gens passionnés, on oublie tous les soucis du quotidien. Et ouais.
Là, tous ces bruits qu'on entend aujourd'hui, bientôt, ça sera dans les musées. Le bruit des moteurs et des pots d'échappement qui pètent.
Malheureusement, oui. Il y a énormément de personnes qui sont contre hein, l'automobile, avec toute cette image qui peut être la pollution, le bruit excessif, la vitesse excessive. Ces gens qui veulent tout interdire ou oublient ça, que des fois l'automobile, bah, c'est notre exutoire, c'est la passion à chacun. Et il faut laisser vivre cette passion. Quoi. Il faut que cette passion demeure.
Voilà pour ce reportage parmi les adeptes du tuning d'Abbeville, avec leur rapport tout particulier à l'objet automobile. La suite d'une semaine en France, on s'intéresse ce soir à la place de la voiture. Quelle mobilité quand on habite loin des centres-villes. Bonsoir Mathieu Bloch.
Bonsoir Eric Delpo.
Vous êtes chef de projet politique mobilité pour le forum Vie Mobile. Pour les déplacements en zone périurbaine, il faut donc distinguer peut-être d'abord les trajets pour le travail et ceux pour le loisir. La problématique n'est pas du tout la même. Hein.
Oui, en réalité, on se focalise beaucoup, quand on pense à la mobilité, sur les déplacements domicile-travail. Et quand on regarde un petit peu les chiffres, eh bien finalement, seulement 22% des kilomètres que parcourent chaque jour les Français en voiture sont réalisés pour réaliser des déplacements domicile-travail. Et on oublie finalement tout le reste. Déjà, effectivement, ben, la moitié des Français ne travaillent pas. Donc en fait, ça fait une part structurante de la population. Et puis, par ailleurs, ben, ce problème va... Enfin, ce phénomène va s'accentuer puisque finalement, on assiste à un vieillissement de la population qui est particulièrement présent dans les zones périurbaines.
Justement, ce trajet du domicile vers le travail qui demeure le premier motif de déplacement, quel est le profil des périurbains qui utilisent leur voiture pour aller travailler? Ils sont plutôt âgés, vous disiez?
Non, ils sont pas forcément âgés, même si les zones périurbaines sont plus âgées que les zones urbaines. Disons que les personnes qui utilisent ça ont souvent pas d'alternative face à l'autosolisme, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la capacité à pouvoir se déplacer, par exemple, d'une commune périurbaine à une autre commune périurbaine. Souvent, les logiques de transport collectif sont fondées sur une relation centre-périphérie, c'est-à-dire qu'on rend accessible le centre depuis la périphérie, mais on n'imagine pas qu'il y ait des périurbains, par exemple, qui travaillent dans des zones d'activité dans une commune voisine. Et pour eux, effectivement, il n'y a pas de solution de mobilité alternative à la voiture.
Puisque le trajet vers l'employeur ou pour l'employeur est le premier motif de déplacement, où en est l'idée d'une politique publique qui rationnerait les déplacements carbonés, donc en lien avec le travail? C'est dans l'air, mais on ne le voit pas beaucoup arriver, ce dossier.
Non, pas du tout. En réalité, les offensives qui sont menées effectivement pour rationner la mobilité, pour diminuer et encadrer la mobilité de la part des employeurs, ne percole pas, puisqu'en réalité, les employeurs en fait, se sont globalement déresponsabilisés en fait, de la mobilité liée au travail de leurs salariés. Au 19e siècle, c'était différent, puisque finalement, les firmes industrielles, par exemple, elles logeaient les ouvriers à proximité du travail. Dans les années 50, il y avait des cars de ramassage qui allaient chercher les employés et qui les amenaient dans les usines ou les bureaux. Aujourd'hui, les employeurs se sentent complètement déresponsabilisés sur ce sujet.
Et depuis plusieurs années, le gouvernement a misé sur le covoiturage avec un objectif de 10% de nos trajets quotidiens à la fin du quinquennat. Aujourd'hui, est-ce qu'on connaît précisément la proportion réelle? Peut-être pas facile à jauger du covoiturage.
Les chiffres sont anciens. Il va bientôt avoir une étude de l'ADEME qui va sortir normalement cette année pour savoir la part des trajets qui sont covoiturés. Mais les chiffres que j'ai en ma possession indiquent une part de 0,5% des déplacements qui sont covoiturés. Et cette part semble baisser selon plusieurs baromètres sur autoroute que réalise Vinci.
Et sur le périphérique parisien, on voit apparaître depuis peu de temps une voie réservée au covoiturage. Voie en principe contrôler certaines régions aussi ont des projets de covoiturage. Quel retour d'expérience a-t-on de ces politiques, qu'elles soient locales ou parisiennes ?
Sur les voies de covoiturage ?
Oui.
Sur les voies de covoiturage, les retours d'expérience sont assez durs, puisqu'effectivement, il n'y avait pas de contrôle, et donc ces voies de covoiturage-là n'étaient pas respectées. Ce qu'on peut savoir aussi, c'est s'inspirer peut-être des modèles, on va dire, américains et canadiens, hein, où les voies de covoiturage existent depuis bien longtemps. On parle de HOV Lane. Et donc, sur ces territoires-là, ce qui s'est souvent passé, finalement, c'est que la voie de covoiturage s'est additionnée aux autres voies, et finalement, elles n'ont pas permis de réduire le trafic automobile, au contraire, elles l'ont augmenté.
À quoi ressemblerait, selon vous, un aménagement du territoire qui permettrait de se passer de la voiture, y compris en dehors des métropoles ?
Selon moi, il faut avoir un choc d'offres qui s'adresse à l'ensemble du territoire français. En réalité, on fait comme si tout le monde vivait dans des vases clos, que le périurbain n'était pas en contact avec l'urbain, ni avec le rural. Selon nous, au Forum Vie Mobile, il faut imaginer un choc d'offres, donc imaginer des déplacements à pied et en marchant qui soient qualitatifs, y compris dans le périurbain et dans le rural, et surtout imaginer un réseau de cars cadencés qui utilisent la route, parce qu'en fait la route, en France, on est un des pays qui a le réseau routier le plus dense.
Un gros maillage de route, oui.
On a un gros maillage de route, donc on peut l'utiliser, et on peut même enlever certaines voitures de certaines routes, parce qu'en fait, il y a d'autres routes en fait, qui sont en redondance avec celle-ci. Donc, mobilisant ces routes-là pour faire passer des réseaux de cars cadencés.
Car cadencé, l'expression me...
Oui, parce que souvent, on parle de car express. Là, en fait, il vise surtout, finalement, à relier la périphérie au centre. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi faire du périurbain à périurbain, d'aller du périurbain à la plage, à la forêt, ouais, etc. Et ça, si on veut vraiment qu'on puisse se passer d'automobile, eh bien, il va falloir avoir une fréquence forte et surtout... Il va falloir que ce réseau de bus soit aussi ouvert le soir, le week-end, pour permettre à des personnes qui travaillent, qui veulent boire un verre, qu'elles puissent rentrer après le travail, ce que ne permet pas aujourd'hui le réseau de transport en commun.
Mathieu Bloch, vous restez avec nous, je vais me tourner vers Yaël Gauze et son regard politique. Yaël, vous allez revenir sur ce petit séisme politique qui a été éclipsé par l'actualité de Marine Le Pen. Les ZFE, ces zones à faible émission, elles sont en sursis.
Oui, surprise du chef, Éric, la semaine dernière, les députés examinent en commission spéciale le projet de loi de simplification auquel tient particulièrement François Bayrou, qui veut débureaucratiser la France. A priori, vous me direz, aucun rapport avec les ZFE. Mmh. Mais par voie d'amendement, une majorité se dégage pour supprimer le dispositif assimilé à une bombe sociale, comme on a pu l'entendre notamment sur les bancs du RN et de la droite. Une démarche saluée par l'écrivain et pamphlétaire Alexandre Jardin, qui dans son dernier livre prend la défense des exclus des ZFE.
Les gueux.
On est en train de provoquer potentiellement gilets jaunes puissance 10. Il y a des gens qui, par exemple, me disent « Ah oui, mais ils ont prévu à l'entrée des ZFE des parkings. Mmh. » Vous savez comment les gens le prennent ? C'est des parkings de gueux. Parce que le peuple doit s'arrêter alors qu'il voit la Tesla rentrer.
Les gueux, c'est le titre du livre d'Alexandre Jardin dans la matinale d'Inter, c'était le 24 mars dernier.
Une évidence écologique qui finit par braquer les élus et des milliers d'automobilistes. Comment en est-on arrivé là, Yael ?
Parce que ça ne pouvait pas marcher sans accompagnement social. Tout ça a été dit et déjà redit. Le coût d'une transition écologique réussie, depuis le rapport remis en 2023 à Matignon par Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, d'où l'amertume aujourd'hui du député socialiste Gérald Leseul.
Ça fait plus de 2 ans que je dis qu'il faut que le gouvernement prenne des mesures d'accompagnement social pour les ménages modestes. Les prêts à taux zéro, le leasing social, les aides de l'État au transport collectif des collectivités locales, etc. Et donc ces dispositifs n'ont pas été mis en place par l'État. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des collectivités locales qui sont face à une population qui a le sentiment d'exclusion.
Le député PS Gérard Leseul sur Ici Normandie, c'était mardi dernier.
Sentiment d'exclusion dans les collectivités locales. Est-ce que l'État baisse les bras ?
Lundi matin, quand tous les projecteurs étaient braqués sur le RN, l'Élysée accueillait un conseil de planification écologique. Ça n'était pas arrivé depuis septembre 2023. Et sur la question de la voiture électrique, 2 axes de priorité ont été inscrits noir sur blanc. La relance du leasing social à partir de septembre prochain et l'accélération des mesures pour verdir le parc automobile des véhicules d'entreprise. Car la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, demande depuis 2020 aux entreprises d'électrifier leur flotte. En théorie, oui, pas dans la pratique, comme le regrette l'écologiste Karima Deli, ancienne présidente de la commission transport au Parlement européen.
qu'est-ce qui s'est passé dans le marché de l'occasion ? Les collectivités, les entreprises ne respectent pas l'article 77 de la LOM. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, vous êtes dans une obligation de racheter notamment des véhicules neufs. Eux, ils le peuvent. Une fois qu'ils achètent du neuf, ils pourront le mettre dans le marché de l'occasion. Et donc, c'est un cercle vertueux. Si vous supprimez les zones de faible émission, vous n'allez pas régler la pollution de l'air. Les gens vont rester malades.
Karima Deli avec Nicolas Demorand le 24 mars. Alors, l'État ne renonce pas. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, est très mobilisée. Elle voudrait, la semaine prochaine, au moins sauver deux ZFE les plus importantes, celles qui ont montré leur efficacité, la ZFE de Paris et celle de l'agglomération lyonnaise, avec un argument financier aussi. Si vous supprimez les ZFE, Bercy a calculé, ça nous coûtera, à nous la France, 3 milliards d'euros parce qu'on est lié par des engagements auprès de Bruxelles.
Il manque à gagner des subventions européennes en plus. Pour finir, Yael, est-ce que ZFE et industrie automobile, est-ce que tout cela peut faire au final bon ménage ?
Mais oui, Eric, est-ce que vous avez vu comme Stellantis dévisse en bourse depuis les mesures douanières de Trump ? Le marché automobile français va mal, moins 15% de vente de véhicules neufs en mars, alors des ZFE bien faites et bien pensées, ça pourrait inciter à changer de véhicule, un accélérateur de demande, la contribution à faire tourner nos usines. Emmanuel Macron peut toujours dire...
Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole, on aime la bagnole. Et moi, je l'adore.
Et pour que ça roule, il faut des preuves d'amour.
Merci beaucoup, Yael Gauz. Mathieu Bloch, chef du projet politique mobilité pour le forum Vie Mobile. Comment est-ce que vous comprenez ce volte-face des politiques publiques sur les ZFE ?
Sur les ZFE, effectivement, l'une des problématiques, c'est qu'on a construit une politique publique qui tapait d'abord sur les ménages les plus modestes. Mmh. Et ça, ça rend quand même difficile l'acceptation d'écologie populaire. On ne voit pas
et
trop les
bénéfices. C'est vrai aussi qu'il y avait une myriade d'exemptions qui permettaient de conserver ces vieilles voitures dans les ZFE.
Exactement, mais en fait, quand vous regardez ces dérogations, la plupart du temps, elles s'adressent à des personnes qui ont une fréquentation occasionnelle de ces villes-là. Par exemple, on peut constater que dans beaucoup de quartiers politiques de la ville, donc qui sont situés dans les zones urbaines, beaucoup de personnes ont besoin d'une voiture pour se rendre dans les zones logistiques, dans les aéroports, souvent pour commencer de nuit leur travail, et eux, il n'y a rien pour eux.
Il nous reste quelques secondes, vous l'aviez évoqué, vous êtes source de propositions, je rappelle votre forum, notamment vous proposez d'utiliser le maillage routier existant pour des mobilités plus écologiques, comment ça se passerait ? Il nous reste quelques secondes.
Donc comme je vous disais, il faut un réseau de transport de bus, un réseau de transport ferré qui soit aussi cadencé pour réaliser des longues distances, mais du coup en fait ce qu'il s'agit de faire, c'est de socialiser la route, c'est de la récupérer, et ça c'est finançable, ça coûte moins cher selon nos estimations que le système automobile actuel.
Et ça, c'est votre préoccupation, notamment dans ce forum Vie Mobile. Merci beaucoup d'avoir fait ce point d'étape sur les mobilités en France, notamment en zone périurbaine. Merci Mathieu Bloch et bon début de soirée.
Merci.
Une semaine en France avec Juliette Gourou à la réalisation, Thibaut Cavaillès à la rédaction en chef. Merci à Louise Cognard qui m'a aidé à préparer l'émission. Dans un instant, nous irons à Reims, à Tours et à Brive.
J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent, voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fuji. Le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran, et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent.
chanteur voyou, avec sa reprise de Syracuse, que chantaient d'abord Jean Sablon, Henri Salvador ou Yves Montand. Il est 18h55.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
L'actualité en région à présent, l'actualité d'ici et d'ailleurs, avec l'indispensable concours des radios du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ICI Champagne-Ardenne, ICI Touraine et ICI Limousin. Marine Protet, Adrien Bossard et Jérôme Aidan, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Marine Protet, à Besanne pour commencer, tout près de Reims. Quel est ce gros bâtiment d'habitation réalisé en partie à partir d'une imprimante 3D ?
Eh bien, c'est une première en Europe. C'est un immeuble dont tous les murs sont en train d'être construits par ce qu'on appelle un portique robotisé. En gros, de chaque côté du chantier, il y a des rails. Au milieu, il y a un grand bras mobile et avec au bout une tête d'impression 3D. C'est elle qui fait couler du béton tout en se déplaçant et c'est ce qui forme couche par couche les murs. Le reste, comme la pose des planchers par exemple, c'est réalisé par des ouvriers.
Mais est-ce que cette imprimante 3D signifie aussi moins d'hommes sur le chantier avec potentiellement des pertes d'emploi ?
Ben oui, parce que pour manipuler la machine, il ne faut que deux ouvriers avec des compétences spécifiques, hein, bien sûr, puisqu'ils font tout avec des tablettes tactiles. Mais de fait, ils se fatiguent beaucoup moins. D'après l'entreprise qui dirige les travaux, ça va donc faire baisser les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Mais tout ça, évidemment, ça a un coût. Hein. Les travaux pour ce bâtiment réalisé avec une imprimante 3D ont coûté 30% plus cher qu'un chantier classique.
Voilà, et ce bâtiment de 12 logements devrait sortir de terre l'an prochain. Il appartient au bailleur social Pluriol Novilia. Nous partons à Tours à présent, Adrien Bossard. Un hommage sera rendu demain à la mémoire de l'ancien maire Jean Germain. Il est mort le 7 avril 2015. Il s'était suicidé le jour de son procès dans l'affaire dite des mariages chinois.
Oui, c'est le nom donné à une opération commerciale menée entre 2007 et 2011 pour que des couples chinois se marient à la française en mairie de Tours et profitent d'un week-end de sur-mesure avec au menu la visite des châteaux de la Loire. Une opération très lucrative et la justice estime que de nombreux acteurs se sont accaparés l'argent, en premier lieu desquels le maire de Tours, mis en examen notamment pour détournement de fonds publics. Le procès s'ouvre le 7 avril 2015. Ce jour-là, Jean Germain doit notamment s'expliquer sur ses liens avec Lisanne, une femme arrivée dans sa garde rapprochée quelques années plus tôt. Est-elle l'organisatrice en chef de ses noces romantiques, sa confidente au cabinet, sa maîtresse, ou bien celle ayant abusé de lui en s'octroyant 700 000 euros d'argent public via sa société ? Jean Germain n'aura jamais l'occasion de s'exprimer. Il se suicide au moment où il est attendu au tribunal. Sa disparition est un choc immense dans le monde politique tourangeau. Certains accusent les médias et la justice de l'avoir poussé à ce geste fatal, une descente aux enfers qui ICI Touraine raconte dans un podcast sorti cette semaine sur l'application Radio France. Ça s'appelle « L'affaire des mariages chinois ou la chute d'un homme secret ». Alors que demain, donc, une esplanade à son nom sera inaugurée à Tours. Une première à deux pas de la ligne de tram, l'une de ses grandes réalisations.
L'affaire des mariages chinois, podcast ICI Touraine sur l'appli Radio France. Merci beaucoup Adrien Bossard. Jérôme Aidan, à présent ICI Limousin, je découvre qu'il y a un championnat du monde de boucherie, compétition remportée cette semaine à Paris par l'équipe de France des bouchers, emmenée par un briviste.
Absolument, Eric. Il s'appelle Christophe Ipianfat, boucher au sein de la maison Bac de Brive, boucherie familiale sur plusieurs générations et spécialiste, bien entendu, de la viande limousine. Alors, c'est bien simple. Les bouchers français ont survolé cette compétition. 14 récompenses, dont 9 titres mondiaux. Et puis, surtout, le briviste et ses acolytes ont remporté l'épreuve reine de cette compétition, le buffet XXL. C'est une épreuve marathon 3h30 pour préparer une sorte de banquet gaulois de 7 mètres de long avec le maximum de spécialités bouchères. Et sur cette manche très relevée, nos bouchers français ont délivré une véritable symphonie en virtuose de la découpe, en staccanoviste du désossage, en sprinter du ficelage de rôti. Je ne vous citerai que cet entremets de viande hachée d'agneau, panna cotta salée à la truffe. Mais ils en ont produit comme ça 300 pièces, une farandole, visuellement on dirait de la pâtisserie. À l'arrivée, le succès de l'équipe de France de boucherie est loin d'être un hasard parce qu'en fait, dans son magasin de Brive, Christophe Yann Fat peaufine son savoir-faire toute l'année. Et avant chaque compétition, Eric, derrière la boutique, eh bien le laboratoire familial devient un véritable centre d'entraînement.
La qualité de la boucherie française. Merci à tous les trois. L'actualité d'ici et d'ailleurs avec nos collègues du réseau ICI. Dans un instant, le journal de 19h de Céline Aslo, puis à 19h20, téléphone sonne à propos de la défiance envers le monde judiciaire.